Le Glen, based on a true story, en hommage à Adrian et Nicolas C., membres de la Wild Geographic Society et inspirateurs de cette histoire. Des bouteilles circulent peut-être dans l'établissement. À l'insinuation du juge, le proviseur s'étrangla. « Comment osez-vous ? » Le Collège Saint-John était l'un des plus réputés du Royaume-Uni. Les services rendus à la reine par ce vaisseau de pierre, posté en sentinelle sur le revers de la falaise de Fidlemore, en face de Glenmalk, étaient inestimables. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sur les 20 000 Spitfire qui rendirent très aléatoire la traversée de la Manche aux as de la Luftwaffe, 359 furent pilotés par des volontaires qui sortaient de ses murs. En guise de ciel, ils n'avaient pourtant jamais rien vu d'autre que les brouillards roulants sur la côte de Malk. Des armées de magistrats étaient passées sous les plafonds de bois de Saint-John, lustrés par les siècles. À la Cour suprême de Londres, certains juges avaient usé les mêmes bans que les prévenus qu'ils condamnaient à 5 ans de réclusion pour « mener indépendantistes menaçant l'intégrité de la couronne ». L'esprit de camaraderie ne franchit pas le seuil des prétoires. Au moins 2 gouverneurs des Indes et des dizaines d'officiers, avant de tâter des moiteurs mortifères du sous-continent, avaient connu l'enfilade des cours carrées de Saint-John, séparées les unes des autres par des couloirs ogivaux et plantés de pelouses interdites. Rongés de malaria, bouffés par la vermine et les chancres vénériens, certains d'entre eux avaient songé avec nostalgie à leur collège d'enfance avant de rendre l'âme sous des palanquins ou copuler lentement des geckos bengalis. Tout ce qui compte en Écosse, des Highlands au mur d'Adrien, avait connu les bienfaits de l'enseignement de cet établissement. Savant mélange de libéralité et de sévices corporels dispensés dans un climat propice à faire naître chez l'adolescent l'envie de courir les mers du Sud. Si Oscar Wilde était passé ici, son sillage sulfureux aurait certainement imprégné les mousses des murailles gothiques d'influence démoniaque, mais, dans la bibliothèque, une plaque astiquée chaque matin par l'élève le plus brillant du trimestre rappelait que Walter Scott avait jeté sous ses voûtes mêmes les grandes lignes de son roman « Woodstock ». Bref, passé prestigieux, présent irréprochable, avenir solide. Et voilà qu'un homme de robe sans surface, un natif de Kintyre par-dessus le marché, s'impatronisé dans les affaires du collège, en suspectait la probité. « Comment osez-vous ? » « Venez voir, juge, » dit le proviseur. L'homme s'approcha de la fenêtre à vitraux et ouvrit un croisillon. Son bureau était construit dans l'aile ouest du bâtiment. Les murs du collège s'enracinaient sur le rebord de la falaise. La paroi noire prolongeait la muraille de l'édifice. Lorsqu'on se penchait, le regard tombait dans le vide jusqu'au rocher de la grève, 100 mètres plus bas. L'océan mordait furieusement le pied de l'accord. Il bavait. Voyez ce récif. Les murs de notre école sont du même roc. Le granit de Calédonie a protégé nos ancêtres des razzias vikings. C'est un rempart infrangible que n'entailleront pas les vices de l'époque. L'écume bouillonne impuissante au pied des falaises. L'écume du temps, monsieur le juge, s'arrête pareillement à nos portes. Le juge battit en retraite. Bien, je ferai mon enquête seul. « Cela vaut mieux, » dit le proviseur. « Oui, » dit le juge. « Vous ne trouverez rien ici, » insista le proviseur. « Non, vous avez raison. Au revoir, monsieur le juge. Au revoir, monsieur le proviseur. » Le juge Cairn était né dans les années 40 de l'union d'un pasteur anglais avec une épicière des Highlands. Il avait été élevé dans un collège du Kintyre où on lui avait donné de l'enfant du traître, et de l'anglais jusqu'à sa 18e année. Depuis, il soignait les plaies de l'enfance en exerçant son magistère avec une sévérité redoutée dans tout le pays. Il avait un corps mou et jaune et des yeux de fou de Bassan. La pureté l'obsédait. La vertu avait sur lui les effets que le vice provoque sur les gens ordinaires. Elle l'excitait. Il pensait qu'il en allait de la morale comme de la météo. Certaines régions sont soumises à une atmosphère délétère, d'autres baignent dans la limpide lumière du bien et du vrai. La solution était de faire souffler les vents purificateurs pour chasser les masses dépressionnaires. Ses congénères le dégoûtaient. Il tenait l'Écossais pour un barbare et voulait en extirper la brutalité. L'administration l'avait nommé au tribunal de Malaig avec la tâche de faire régner l'ordre dans le district. On lui avait donné un poste civil. Il se croyait investi d'une mission civilisatrice. L'année passée, il avait enfourché un nouveau cheval de bataille, la lutte contre l'alcoolisme. Chaque année, le tabloïd britannique Enquirer publiait les statistiques du Home Ministry et classait les régions selon la consommation d'alcool. Tous les ans, Malaig arrivait en tête. Il n'y eut qu'une année funeste, en 1996, où le bourg de Hendon coiffa Malaig au poteau, ce qui entraîna une vague de délirium tremens, car là-bas, on fêta l'événement, et ici, on tenta de noyer l'affront. En 1995, la BBC avait retransmis les scènes de l'arrivée des étudiants talibans dans Kaboul. Le mollah Omar avait ordonné la destruction des stocks d'alcool saisis. Les caméras avaient immortalisé un char d'assaut T-34 écrasant une montagne de bouteilles de bourbon et de scotch pakistanais frelatés dans une explosion de verre en plein quartier de Shah-e-Naw. Des Afghans enturbanés et armés d'AK-47 surveillaient la scène, impassibles. Certains nourrissaient peut-être une réprobation secrète pour pareil gâchis, mais les barbes empêchaient de lire tout sentiment sur les visages. Les seuls qui n'en portaient pas étaient des Hazaras passés dans les rangs talibans et dont les visages turco-mongols n'exprimaient rien. La scène avait réjoui le juge. Sa vocation lui était apparue, lumineuse. Il serait le T-34 du Glen. Il ne laisserait plus un pays entier sacrifié à un dieu de 12 ans d'âge. Or, le collège Saint-John venait d'être le théâtre d'un incident préoccupant. Deux fillettes de 13 ans s'étaient présentées un matin à la porte de l'établissement en titubant. À peine avaient-elles franchi l'enceinte qu'elles s'étaient écroulées sur les pavés de la grande cour. Le diagnostic avait été facile, coma éthylique. Le médecin du petit hôpital local les avait sauvées, mais l'aînée, Lisa, conserva pendant 3 mois et demi un tremblement de la paupière et une paralysie de la mâchoire dont elle se persuada qu'il résultait du choc sur les pavés de la cour et non des ravages de l'éthanol dans les terminaisons cérébrales. Pour fêter les 13 ans de la cadette, les deux écolières avaient descendu une bouteille d'Aran Single Malt au sommet de la colline qui surplombe les pinacles gothiques du collège. À 7h30 du matin, elles s'étaient assises sur leur cartable pour se protéger de la tourbe. Une demi-heure plus tard, deux silhouettes graciles, découpées dans le ciel, dansaient un sabbat elfique sur le fil de la lande, bouteille à la main. À 8h45, la cuite sur le mont Chauve était terminée, il ne restait plus rien dans la bouteille. Déjà, les premières vapeurs lançaient l'assaut dans les artères. Les 5 litres de sang vierge des fillettes ne pesaient pas lourd contre les menées du Malte. Elles trouvèrent le chemin de l'école par la grâce de ces automatismes qui ramènent le port à l'assaut. L'histoire arriva aux oreilles du juge qui diligenta une enquête. On découvrit la bouteille dans les bruyères. Les étiquettes conduisirent les limiers à l'épicerie du port. Edmond, un ancien pêcheur qui avait perdu sa main gauche dans le treuil du chalut et s'était reconverti dans le petit commerce, jura de l'autre main sur la tête de ses ancêtres qu'ils n'avaient pas vendu le whisky aux écolières et qu'elles avaient dû le voler. Puis des témoins se rappelèrent que les deux enfants avaient rôdé autour de l'Old Navy. Le juge s'y rendit le soir même. Le taulier reconnut qu'il avait servi quelques verres aux deux filles, mais assura qu'il les avait pensées majeures et s'engagea dans une ligne de défense originale, s'insurgeant contre les marchands de vêtements qui permettent aux Lolita prépubères de s'attifer comme des « putes anglaises ». sans cette malheureuse référence, il aurait écopé d'une peine plus souple. Le juge lui colla 4 mois ferme. L'intitulé de la condamnation fut publié dans le journal du lendemain, où le peuple de Malègue apprit que J.H. avait été reconnu coupable de vente d'alcool à mineurs et d'incitation à la débauche. L'histoire en serait restée là si, quelques mois plus tard, 2 collégiens de Saint John, les jumeaux Peter et Henry Barnes, ne s'étaient pas désagréablement manifestés à l'attention de leur professeur de géographie. Ils furent convoqués dans le bureau du proviseur, où ils commencèrent par s'asseoir sur le bureau jusqu'à ce qu'une paire de coups de règle en acajou sur le bout des doigts les dégrise un peu. Rien ne vaut l'éducation britannique contre la gueule de bois. Au cours des 3 jours de travaux d'intérêt général qui constituèrent leur punition, ils se familiarisèrent avec la tonte du gazon, qui est à l'art des jardins anglais ce que la taille du buis est à la science du jardin français. Mais les 2 frères ne semblèrent pas impressionnés par la sanction, car le lendemain de la levée, ils réintégraient le collège en hurlant des obscénités, l'haleine âcre et la lèvre luisante. L'alcool fait des ravages sur les complexions nordiques. Il bariole de taches rouges les peaux trop blanches, avachit les visages et délave les regards déjà pâles. Les Barnes étaient des colosses roux à tête carrée et cou de débardeur. Ils avaient grandi trop vite. Leurs glandes endocrines avaient du mal à harmoniser leur organisme et chaque membre poussait en friche, autonome. Ils se déplaçaient gauchement, occupaient l'espace avec des grâces de buffet. L'alcool décuplait leur maladresse. Les frasques des Barnes furent rapportées au juge par son fils aîné, qui était en classe avec eux et ne ratait jamais une occasion de se montrer digne de son père. Le juge Cairn trouva là une occasion de manifester l'admiration qu'il vouait aux techniques afghanes. Jamais le mollah Mohamed Salim Hokani, dans sa retraite du Wardak, n'aurait pu se douter que ses méthodes feraient un émule dans les parages occidentaux de l'Europe païenne. Pendant l'aventure talibane, ce pachtou ultra-orthodoxe avait été en charge du ministère de la répression du vice et de la promotion de la vertu. L'Afghan avait instauré un très ingénieux système de contrôle de l'alcoolémie. Les passants interpellés devaient souffler dans le visage des talibans afin de prouver leur sobriété. La technique était radicale, mais possédait ses limites, car il fallait que les contrôleurs connaissent le parfum de l'objet du délit pour incriminer le contrevenant. Or, bien des talibans étaient étrangers aux effluves du scotch, du gin ou même du brandy de contrebande de Peshawar. Nombre de pauvres hères passèrent la nuit au poste parce qu'ils avaient abusé des abricots secs ou de grains de raisin. Cairn se posta le matin suivant à l'entrée du collège et demanda à chaque élève de lui souffler au visage. Le juge démasqua quelques fumeurs précoces qui grillaient du mauvais tabac sur le chemin de l'école. Puis les jumeaux Barnes arrivèrent. Ils n'eurent même pas à souffler. Ils empestaient à 1 mètre. Les appariteurs signalèrent au proviseur qu'un magistrat se livrait à des pratiques étranges sous les voussures du porche et on pria l'homme de robe de s'expliquer devant le directeur des lieux. Le juge et le proviseur se livrèrent à la petite explication que l'on sait. Cairn changea de tactique et décida de remonter aux sources. Il fallait faucher à la racine. Le soir même, il frappait à la porte des Barnes, à Balmoral Street. Le père était en mer, au large des Féroé, sur son bateau de pêche. La mère était en peine, l'oreille rivée à la météo marine qui annonçait des dépressions. Les jumeaux faisaient leurs devoirs dans la chambre. Le juge alla au but. « Vos fils boivent, madame. »« Je sais, juge, » dit la mère. « Il faut couper l'approvisionnement, » dit le juge. « Et vous suspectez une mère de corrompre ses enfants, juge ?»« C'est une enquête, madame Barnes. Il ne faut rien négliger. »« Dehors. » Le juge laboura le bourg. Il soumit à la question le vieil Edmond, fit le guet aux abords de l'épicerie. Le patron de l'Old Navy, sa peine de prison purgée, avait rouvert l'établissement. Posté en face du pub, le juge y surveilla les allées et venues des clients. mais le tripot ne recrachait rien d'autre dans la nuit que la galerie des habitués. Pêcheurs retraités et marins de retour de campagne qui dissolvaient le goût du sel dans le malt et se vengeaient de la médiocrité de la vie en trouant la cible de Liège de petites fléchettes hargneuses. Pas de jumeaux. Kern revint vers le collège et prit en filature les frères Barnes une semaine durant. Sa déception fut immense. Peter et Henry vivaient l'existence ennuyeuse de deux écoliers écossais. Pourtant, leur démarche ne laissait pas de doute. Ils buvaient. Le samedi suivant, les jumeaux Barnes quittèrent le village à bicyclette aux premières lueurs. Ils furent pris en chasse par la Volvo grise du juge Kern. Ils passèrent le pont de Rannoch et au calvaire de granit noir s'engagèrent vers le nord dans la direction du loch d'Adelberry. La route serpentait entre deux murets de pierres sèches. Au volant, on avait l'impression de rouler dans un corridor étroit et il fallait bien négocier les virages pour ne pas érafler les ailes. Les moutons étaient posés dans les champs comme des œufs durs sur la mâche. Le crachin recouvrait leurs soins d'une pellicule argent. Des corbeaux traçaient dans le ciel des lignes parallèles. La route caracolait dans les tourbières avant de rejoindre la ligne littorale. Elle longeait le revers d'une falaise, s'en écartait, y revenait jusqu'à frôler le vide. Les jumeaux firent halte dans un petit cottage construit au bord de l'abrupte. Ils posèrent leur bicyclette contre la façade. Des roses trémières montaient une garde joyeuse de part et d'autre de la porte de bois verni. Se pouvait-il qu'ils s'approvisionnent ici? Le juge Kern connaissait bien la propriétaire des lieux. Miss Mallory, une vieille fille à moitié sénile, qui racontait pendant des heures à qui avait le malheur de prêter l'oreille que son frère était arrivé au sommet de l'Everest en 1924. Le juge gara la voiture et s'approcha. Par la fenêtre, il vit les jumeaux attablés. La vieille leur servait le thé. Fausse piste. Il attendit une heure, garé en face de la maisonnette, que les jumeaux en sortent. Ils reprirent leur route, forçant sur les pédales contre le vent du nord. Un ray de lumière solaire soulignait l'horizon, pris en étau entre la mer et un ciel d'encre. Les jumeaux bifurquèrent vers le rivage sur un chemin de tourbe noire qui menait à la crique de Glaston, située à 200 mètres en contrebas de la falaise. C'était une indentation de la rive connue autrefois des naufrageurs pictes. Sous les parois s'étendait une petite plage de galets oubliés, protégée des visiteurs par un accès périlleux. Près de Malegue, les plages de Dingle et de Garlore offraient de molles courbes qui attiraient sur leurs flancs jusqu'aux habitants de Glasgow. Les sombres parois de Glaston n'intéressaient que les mangeurs de salicornes, les membres des sociétés ornithologiques et quelques randonneurs. Le juge dépassa le chemin jusqu'à ce que les silhouettes des garçons disparaissent dans un pli du sol, puis il recula à l'intersection, rangea la Volvo et s'engagea à pied sur le chemin. Des fulmars surfaient au-dessus des tombants. Des feux allumés au sommet des falaises avaient autrefois précipité les équipages sur les récifs. Aujourd'hui, seule la pâle étoile des panicots se balançait dans les rafales. À la surface de l'eau, des cormorans noirs rasaient l'écume à s'en décrocher le cou. L'orage pointait. La lande était lugubre. Le chemin se rétrécissait en une sente. Le juge cogna contre les bicyclettes abandonnées dans un bouquet de plantains. Une valeuse crevée par l'érosion offrait un marchepied géant pour accéder à la crique. Le juge se retenait aux filandres de salicorne pour ne pas glisser. Il mit longtemps à atteindre la grève. De sa position, il ne distinguait rien d'autre que le tas de vêtements des jumeaux jetés sur les rochers. Le juge touchait la rive lorsque les frères firent surface. Le ressac haletait sur les galets. Sir Kern se plaqua contre un bloc d'ébouli. Les frères ôtèrent leurs combinaisons de plongée, leurs masques et leurs palmes, les bourrèrent dans un sac marin qu'ils cachèrent dans le creux d'un rocher et se rhabillèrent car le vent d'ouest laminait la crique. Les rafales cisaillaient la crête des vagues, projetant l'écume jusqu'aux parois. À la tienne, Peter. Au capitaine courageux. Nous partirons. » Les jumeaux trinquèrent dans deux quarts de métal qu'ils vidèrent d'une lampée avant de se resservir. Ils brandissaient une bouteille de verre noir à panse aplatie emmanchée d'un long col à laquelle ils semblaient décidés à faire un sort. Ils remplissaient leur quart à ras-bord lorsque le juge sortit de sa cachette. « C'est fini, messieurs. » C'est ainsi que les archéologues retrouvèrent la trace du Benda II. Le navire hollandais, jaugeant 800 tonneaux, était parti un jour de novembre 1764 du port de Middelbourg, à destination des Orcades, porteur d'une cargaison d'épices indonésiens et de 500 bouteilles de rhum de la Barbade, s'était égaré dans le dédale des Hébrides intérieures et, abusé par les feux naufrageurs des renégats du Glenmalk, il était venu s'exploser sur les récifs de Glaston, précipitant dans le bouillon déchaîné 127 hommes d'équipage ainsi que la cargaison qui coula par 12 mètres de fond, attendant que 3 siècles plus tard, deux jeunes apnéistes de Malègue, descendant d'une lignée de pirates des Landes, découvrent le stock intact, enchâssé dans une faille sous-marine. Pendant une année, les jumeaux avaient honoré la vaillance des marins et médité sur l'infortune en faisant libation d'un rhum 2 fois centenaire recueilli sur les récifs du naufrage.